des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une rencontre entre deux filles dont on a adoré les livres, aussi différents soient-ils, et peut-être en fait, parce qu'ils ne sont pas si différents dans la sincérité qu'ils portent en eux. Deux voix en tout cas à découvrir, si vous ne les connaissez pas encore. À ma gauche, Violaine Schwartz. Bonjour Violaine Schwartz.
Bonjour.
Et à ma droite, Paola Pigani. Bonjour Paola.
Bonjour.
Pigani. Alors, on vous connaît, Paola Pigani, comme poétesse et comme l'auteur d'un premier roman formidable, N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures, qui était paru chez Liana Levy en 2013. Vous publiez toujours chez Liana Levy des orties et des hommes. Clin d'œil osé, mais bienvenue à Steinbeck, et qui raconte ce livre une enfance et un territoire. Une enfance en Charente, une enfance dans les années 70, une enfance au milieu d'une famille d'origine italienne, une enfance au milieu des bois, des champs, d'un monde paysan, où l'on entend, et vous nous le faites entendre, le murmure de la rivière où l'on jette des cailloux, le cochon qu'on égorge, les conseils de la nonna. Je prononce bien la nonna ?
La nonna.
Voilà, la nonna. Pour arracher les orties sans se brûler et les cuisiner avec des pommes de terre et du lard. Une enfance à la fois âpre mais merveilleuse où la vie s'écoule au rythme des vélages, du prix aussi du fioul, de la sécheresse. Une enfance pleine de vie, une enfance pleine de bouleversements quand la politique s'en mêle, le Larzac en lutte par exemple, ou quand la discipline s'impose, le pensionnat religieux où les visages sont gris et qui ne feront jamais oublier à la narratrice, la petite Pia, que ce qui est important c'est ce qui dure, et ce qui dure, c'est ce qui nous est transmis, le sentiment d'appartenance à une histoire, à un monde, à une culture, et chez vous elle est hybridée, elle est métissée, elle est faite de douceur et de dureté aussi, c'est celle de l'ancien monde paysan dont vous nous livrez toute la poésie, Paola Pigani, je vous cite, « Ce pays est le mien pour quelque temps encore, même s'il n'est que de pierre, d'écorce et de terre, je n'ai qu'à le respirer par la peau et garder l'horizon pour voyage, les frontières tendres, le sorgho et le blé, le maïs trembleront encore sous mes yeux quand j'habiterai une ville. » Je disais des orties et des hommes, clin d'œil au sourire des hommes de Steinbeck. Ça finit un peu mieux quand même.
Oui, j'espère. Mais bon, on est quand même dans une certaine marginalité autour de vie. Alors bon, évidemment, le mot n'est pas de moi, mais je me le réapproprie, de ces vies minuscules qui œuvrent dans une communauté où tout se partage, quoi. La misère, le travail, les duretés, les puretés de l'enfance. Voilà.
Et Steinbeck, alors, il est venu en écrivant le livre
Il était très lointain dans ma mémoire d'adolescente. Évidemment, je l'avais lu, j'avais 17 ou 18 ans. Je l'avais oublié. J'ai un petit peu honte de dire ça, mais pourtant, voilà. Ça, et ce sont des lecteurs qui m'ont rappelé des souris des hommes. Mais oui, des souris des hommes.
Et sur le monde paysan aussi.
Voilà, cette tendresse un peu sauvage de Léni. Voilà, donc il y a aussi un personnage marginal qui symbolise ce monde fragile paysan des années 70, c'est le personnage de Joël.
Le bossu.
Le bossu.
Voilà. L'ortie, c'est une plante qui fleurit à peine et qui pique. Quel sens vous lui donnez, puisque vous avez propulsé l'ortie, même sur la couverture de votre livre, des orties et des hommes. Quel sens il faut donner à cette plante, que l'on cueille sans se brûler dans votre livre?
Alors, c'est une plante vivace qui prolifère là où l'homme a vécu, là où l'homme a disparu depuis longtemps aussi, autour des ruines, en lisière, entre ce qui est déserté, ce qui est encore habité faiblement. Les orties sont aussi des plantes qui fleurissent à peine, très discrètement, et symbolisent un peu la résistance de ces femmes, donc voilà, des orties et des hommes, des femmes et des hommes, qui donne tout d'elle, voilà, aux animaux, aux hommes, à la terre, qui vivent en tablier avec des bottes en caoutchouc, qui oublient un peu leur féminité. Et, voilà,
donc les orties sont les femmes.
Les reines oubliées.
Voilà, exactement. Bonjour Violaine Schwartz.
Bonjour.
Alors bravo à vous aussi pour votre livre. Vous êtes auteur, vous êtes comédienne, vous publiez Papier chez POL. C'est un petit livre de 200 pages qui se lit vraiment d'une traite, le cœur battant. On le lit vraiment comme une épopée contemporaine avec de véritables héros qui se lancent pour traverser des mers et des continents tels des argonautes qui doivent éviter des obstacles, qui doivent combattre des monstres aussi. Alors des monstres qui les rouent de coups parfois, qui les rançonnent. Vos héros tombent, ils se relèvent, ils rient parfois, ils essaient de décrocher leur toison d'or qui se trouve être le plus souvent un passeport, un titre de séjour, un précieux papier. C'est un livre qui est plein de récits que vous avez recueillis sans rien y ajouter ou presque, en mettant votre propre voix en retrait. Ce sont des récits, je le disais, d'incroyables traversées, d'incroyables souffrances, d'incroyables espoirs aussi, qu'on prend en pleine tête vraiment, et que vous mettez en forme dans une langue qui bruisse d'humanité, comme s'il s'agissait de battre en brèche, au fond, une autre langue plus mécanique, qui est la langue administrative, celle qui parle d'OQTF, obligation de quitter le territoire français, ou de RATATA, refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile, langue à laquelle se heurte la langue de ces errants, qui cherchent, eux, une terre promise dont parfois ils ne parlent pas la langue, langue contre langue, papier contre papier, celui qui recueille leurs mots contre ceux qui leur permettraient d'être recueillis. En donnant à votre texte ce titre de papier au pluriel, qu'avez-vous voulu nous dire, Violaine Schwartz ?
Ben, déjà, papier, c'est différents papiers, au sens de papier, c'est différents récits. Et ensuite, papier, ma foi, en effet, c'est les gens que j'ai rencontrés essaient d'avoir des papiers à tout prix. Donc, on les appelle les sans-papiers, ce que je trouve pas tellement juste, parce que c'est des gens qui croulent sous les papiers, ouais. Sous les photocopies et les... Voilà, ça joue sur ce mot-là.
Ouais. Et le papier aussi de la page, du livre.
Oui,
qui est
voilà,
devenu
voilà.
Aussi...
C'est-à-dire que moi, j'ai écouté ces gens, je les ai enregistrés avec un dictaphone. Ensuite, j'ai retranscrit fidèlement, assez bêtement en fait, c'est les mots que j'avais entendus. Et ensuite, je pose ces mots sur du papier, sur une page.
Qu'est-ce qui vous a le plus ému justement en recueillant ces récits qui ne sont pas inventés, qui sont à peine, d'ailleurs, vous le dites, hein. Qui sont retranscrits, qui ne sont pas réécrits. Qu'est-ce qui vous a le plus ému dans ces paroles que vous recueillez ?
Ben, c'est comme vous l'avez dit, en fait, c'est des traversées incroyables, en fait, que ces gens ont vécu, traverser le désert. On entend beaucoup à la radio, à la télé, des histoires de bateaux. Mais quand c'est quelqu'un en face qui nous le dit, avec des détails très précis, par exemple, on sait que la Libye, c'est épouvantable. Mais quand c'est... quelqu'un, un Éthiopien qui est resté, qui raconte très précisément qu'il est resté 5 ans bloqué en Libye et racketté, voilà. Et son histoire, il parle beaucoup d'argent, mais parce qu'en fait, il court après l'argent pour s'en sortir, quoi.
Et de l'argent qu'on leur prend en permanence, en fait. Hein, vous le disiez, c'est du rançonnage permanent.
C'est du rançonnage, ouais. Et donc, ce qui m'a touché, c'est de rentrer dans des histoires particulières.
Le papier, c'est aussi le papier monnaie, alors, au fond, aussi.
On peut aussi, ouais.
Merci à tous les deux et bienvenue dans cette émission. Je disais à l'orée justement de cette émission que vos livres étaient différents, mais peut-être pas en fait tellement. Je m'explique, j'ai l'impression que l'un et l'autre de vos livres chantent le même désir d'appartenance, soit quand on appartient vraiment à un territoire, à une histoire, et encore parfois cette histoire est métissée, que quand on doute même parfois, et là je pense à vous Violaine Schwartz, d'appartenir encore à la communauté humaine. Je cite cette phrase de papier, on avait oublié qu'on était des hommes et des femmes. Est-ce que c'est ça qui meut vos deux livres, restaurer une forme de lien aussi, Paola Pigani ?
Restaurer une forme de lien grâce au récit, alors formulé ou non. Pour ma part, le désir d'écrire, je pense qu'il est né à cette période où je percevais des choses non dites sur le parcours chaotique de ma famille, donc qui était partie de l'Italie du Nord, qui avait transité 10 ans en Belgique pour atterrir dans un pays perdu en Charente. Et le récit, le travail, l'attirance pour la langue est venue de toutes ces choses bigarrées, de toutes ces langues entendues. et des histoires non partagées vraiment à ciel ouvert, entre le patois charentais, les différents dialectes, l'italien, la langue.
Non partagées parce qu'elles étaient tues.
Alors, non pas tenues secrètes, mais tues parce qu'il fallait vivre dans le présent coûte que coûte, sans pour cela pouvoir vraiment anticiper sur l'avenir. Voilà, c'est le présent des gens qui sont assez pauvres et qui doivent lutter pour subsister. Donc, voilà, ils scoltinent avec déjà la réalité, le présent. Peu de temps pour la nostalgie.
Il a fallu donc retisser, c'est ça, tous ces récits non partagés, comme vous le disiez, c'est ça, parce qu'on parlait de cette idée de lien aussi.
Alors, mon personnage principal, avec son regard d'enfant, capte certaines choses. On accompagne la maturité de son regard jusqu'à une lucidité assez trouble, en fait, sur les transformations de la famille et de ce territoire, territoire rural, paysan des années 70.
Vous parliez de nostalgie, Paola Pigani, justement, que ces gens n'étaient pas peut-être doués pour la nostalgie parce qu'ils étaient forcés d'être dans le présent. Au contraire, la nostalgie, on la perçoit de façon très très forte dans votre texte. Donc, c'était quoi ? C'était restaurer aussi cette nostalgie dans laquelle eux ne pouvaient pas être.
Sans doute, ça s'est fait de façon peut-être un peu inconsciente, parce que finalement c'est un peu un livre sur les pertes. J'ai essayé d'éviter cet écueil-là, l'écueil de la mélancolie, de dire les choses sur le mode, voilà, c'était mieux avant.
Ah oui.
Évidemment qu'on a tous une nostalgie de l'enfance, cette enfance qui répond toujours à l'appel avec des tas de réminiscences. Mais c'est pour cette raison aussi que j'ai souhaité que le personnage principal...
Le vert paradis des
oui,
je
sais, des
voilà,
amours
le vert
enfantines.
Des amours enfantines, voilà.
Non, Pial parle au présent.
Oui. Et
voilà. Et c'est...
Cette idée, Violaine Schwartz, de restaurer un lien aussi entre ces différentes paroles, c'est plusieurs récits, hein, c'est une forme de... C'est vrai que je pensais là à la tapisserie en vous écoutant, Paola Pigani, puisqu'on parlait des héros, des épopées, je pense toujours à la tapisserie de Pénélope. Et au fond, est-ce que les écrivains ne font pas ça sans arrêt, essayer de tisser, de détisser, de retisser en permanence? Est-ce qu'il y avait cette idée-là aussi, non seulement de recueillir une parole, mais de tisser entre eux ces récits qui appartiennent à des gens fondamentalement différents, venus de coins totalement différents, de Azerbaïdjan, d'Éthiopie, vous l'avez dit, vraiment des quatre coins du monde.
Mmh. Oui, en effet, j'ai rencontré donc des gens qui venaient des quatre coins du monde, comme vous dites, mais évidemment, ils sont traversés par les mêmes... on retrouve des points communs, le hasard, en fait, le hasard de se retrouver à Besançon ou à Belfort ou à Paris, la difficulté qui les a poussés à s'enfuir, l'accueil à Paris ou la difficulté de l'accueil en France, la peur encore, l'espoir de s'en sortir, les difficultés avec la langue, l'administration française, truffée d'acronymes vraiment incompréhensibles.
Et que vous livrez d'ailleurs au début du livre, hein. Il y a le glossaire, c'est assez... Malheureusement, c'est assez drôle. Ratata, ça existe, par exemple, que
ça
je
existe,
citais.
Ça existe, ouais.
Voilà, on dit donc, c'est le refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile. Il y a le zapi
c'est
aussi,
bien aussi.
Voilà, zone d'attente.
Pour passager en instance.
Passager en instance. Mmh. Et donc, oui, ce que vous nous dites, c'est qu'il y avait l'idée de montrer aussi les constantes. En fait, on a beau venir d'endroits différents, au fond, les constantes, presque les données malheureusement romanesques, mais qui sont réelles, les obstacles à surmonter sont les mêmes.
Oui. Ben, la difficulté de partir et la difficulté de se trouver ici. Après, c'est vrai que j'ai écrit donc des récits de vie, voilà, comme des petites nouvelles, en fait, que j'ai écrit donc à partir de transcriptions. Donc, la contrainte que je m'étais fixée, c'était d'écrire, en fait, à partir des mots entendus et seulement à partir de ces mots. Alors, évidemment, les gens ne parlent pas comme c'est écrit parce que moi, j'avais un témoignage brut, et après, j'ai fait comme du montage de cinéma. J'ai mis ça en avant, et j'ai écrit aussi un peu en vers libre, pour essayer d'être au plus près de la respiration, du flux de parole, d'être au plus près de ce que j'avais senti. Donc, en effet, des fois, il y a des accélérés de pensée, et puis des répétitions, ou juste des mots comme ça. Et après, ces récits, en fait, sont entrecoupés d'exercices d'école, parce que je suis arrivée à l'école, d'une part, parce que moi, comme eux, face à cette langue bourrée d'acronymes, ben, il a bien fallu apprendre à les apprivoiser, à comprendre ce que ça voulait dire. Et puis, c'est vrai que eux, quand ils arrivent en France, souvent ils retournent à l'école parce que pour s'intégrer, il faut apprendre le français et c'est quand même très difficile. Donc c'est vrai que les récits sont en fait reliés entre eux par des exercices d'école, une dictée, un texte incroyable de Bertolt Brecht, un exercice de mathématiques.
On en parlera, voilà. Il est important Bertolt Brecht. C'est les récits que vous avez entendus étaient en français?
Oui, j'ai rencontré aussi des gens avec un où c'était traduit, mais ces témoignages-là, je les ai pas gardés en fait, parce que justement, c'est aussi ce qui m'a amené à faire une catégorie de texte qui s'appelle de l'hospitalité, parce que par exemple, on a appris qu'à Mout, qui est donc le petit village, soi-disant le plus froid de France, il y avait une famille d'Irakiens qui venait d'être accueillie par une jeune association créée pour la circonstance. Et donc, je suis allée à Mout en résidence plusieurs fois et j'ai rencontré tous les Irakiens. Donc, il y avait trois générations, grands-parents, fils et petits-fils. Mais le problème, c'est qu'ils parlaient l'anglais. Enfin, en fait, je n'ai rencontré qu'une voix, c'est-à-dire un Rad, qui était professeur d'anglais à Erbil et qui parlait en anglais à la place de tous les Irakiens. Voilà, donc... Et j'ai aussi rencontré les gens qui avaient créé cette association. Un gendarme à la retraite, c'était incroyable comme histoire en fait. Et du coup, c'est ce qui m'a donné l'idée aussi de m'attacher aux accueillants. Parce qu'en France, certes, c'est dur, mais il y a quand même la partie civile qui...
Voilà. Montrer l'autre côté aussi. Vos deux textes ont plein de... Je parlais de sincérité aussi, plein de points communs. Ils chantent l'exil, ils chantent la douleur lancinante, indépassable de l'exil, cette espèce de longue insomnie, comme disait Victor Hugo. Et vous avez, Paola Pigani, d'ailleurs, consacré votre deuxième roman à des réfugiés. Ça s'appelait « Venu d'ailleurs ». Et il était question d'en entre pas dans mon âme avec tes chaussures, des tziganes aussi, donc encore des populations nomades, errantes, poursuivies par la commandante Tour pendant la guerre, en Charente, toujours. Qu'est-ce qui vous tient à cœur l'une et l'autre dans la volonté de faire entendre justement cette parole de l'exil, cette idée d'étrangeté aussi au monde? C'est un peu votre histoire, vous le disiez, Paola Pigani, vous êtes née en Charente, dans une famille d'immigrés italiens. Est-ce que ça, c'est ça qui explique cette volonté de travailler aussi profondément le thème de qu'est-ce que c'est qu'être d'ailleurs, de venir d'ailleurs?
Être d'ailleurs...
Même quand on est né là.
Devoir vivre au moins quelques années dans la marge avant de se rallier à un groupe, à une famille, à un pays, à une ville, à une communauté. C'est vrai que moi j'ai à cœur d'écrire sur tout ce qui renvoie au sentiment de solitude qu'on peut éprouver dès lors qu'on est coupé des siens, qu'on est en perte de repères, sans forcément passer une frontière, sans forcément qu'il y ait une migration physique. Mais voilà, comment on se retrouve avec un premier sentiment de solitude totale en tant qu'être humain au milieu d'inconnus. Et parler aussi de la marginalité dans le sens où elle éclaire quelque part ceux qui sont enracinés, ceux qui ne doutent pas de leur place au monde.
Elle les éclaire, c'est-à-dire ?
Elle les éclaire, elle leur apporte aussi une profondeur de regard. Elle les oblige aussi à s'interroger, comme les Français se sont interrogés, les Français citoyens se sont interrogés sur le sort de leur... co-citoyen manouche, tzigane, pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin plutôt après.
Je citais Victor Hugo, qui a beaucoup écrit sur l'exil. Il avait cette phrase magnifique, l'exil c'est la nudité du droit. Ça pourrait être tout à fait écrit sur le fronton de votre livre, Violaine Schwartz. Est-ce que vous avez été guidé justement par des auteurs en particulier dans l'écriture de ce livre, dans cet exercice de montage de paroles d'exilés?
J'ai pensé beaucoup à Svetlana Alexeïevitch. Au début, c'était une commande du Centre Dramatique National de Besançon et je devais écrire 4 piécettes pour des étudiants dans une école de théâtre à Besançon qui s'appelle le Dost Théâtre. Donc j'avais des contraintes assez précises, c'est-à-dire je devais écrire 4 piécettes d'un quart d'heure pour 5 acteurs, très précis. Et donc j'ai rencontré ces gens au théâtre. Mais moi, j'avais donc des monologues, j'ai rencontré les gens un par un, donc je suis partie pour telle et telle raison, et je suis arrivée à Besançon, souvent par hasard, et voilà. Alors j'ai essayé de trouver 4 approches différentes pour ces 4 piécettes, donc j'ai fait un monologue, comme c'est le premier récit, qui est ce récit d'une femme arménienne d'origine azérie, ça je l'ai écrit comme ça. Mais c'est aussi pour le théâtre que je l'ai écrit comme ça, c'est-à-dire comme un long récit... Vous voyez, par exemple, assez vite, je me suis dit, je vais pas poser mes questions. Enfin, je vais faire un monologue, voilà.
Et pourquoi Svetlana Alexievitch, dont vous parlez, l'auteur de L'Homme rouge, hein,
voilà.
Pourquoi elle? Pourquoi pensez-vous à elle?
Bah parce que comment dire, elle, c'est des romans de voix ce qu'elle écrit et on, c'est, elle rencontre les gens et elle écrit à partir des témoignages et
dans la méthode.
Oui.
Et vous, Paola Pigani, est-ce qu'il y a eu des bonnes fées écrivains aussi qui se sont penchés sur votre épaule pendant que vous écriviez Des orties et des hommes?
Alors,
vous parlez beaucoup de poésie, Guy Evic,
oui,
et là,
oui, toujours, toujours.
Poésie élémentale, élémentaire.
Voilà. Passer près des fontaines pour s'enfoncer vers l'origine de Guy Evic. Souvent, j'ai des démarreurs comme ça, avec des vers de poètes. Et là, en l'occurrence, c'est Vincent Van Gogh.
Ah oui.
Le semeur. Ouais. Le semeur avec cette ombre comme ça de paysan que semble rejoindre un saule têtard et l'énormité du ciel bleu qui rejoint la terre qui en devient presque bleu de promesse, enfin cette puissance, ouais, j'aimerais avoir le tableau pour moi seul pendant 48 heures. Mais voilà, j'ai regardé cette reproduction sur une petite carte plusieurs fois, ça m'a beaucoup apporté.
Un déclencheur pictural.
Voilà, c'est une nourriture en tout cas, oui.
On va continuer à parler avec vous deux, Paola Pigani, Violaine Schwartz, de cet exil, de ce sentiment d'appartenance ou de désappartenance que vous traitez, que vous approfondissez dans vos deux beaux livres « Des orties et des hommes » chez Liana Levy pour Paola Pigani et « Papier » de Violaine Schwartz chez POL. On commence avec vous, Paola Pigani, on va s'enfoncer, explorer « Des orties et des hommes ». On écoute d'abord votre choix musical, vous avez choisi un titre de Fausto Leali, Angeli Negri, c'est ça? Donc les anges noirs, c'est un live, donc voilà, on va entendre le grain de sa belle voix.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Pittore, ti voglio parlare, mentre dipingi in giro. Sono un povero ed una cosa ti prego, forse la Vergine bianca, fammi un angelo nero, tutti bimbi danno il cielo, anche se sol solo me grido.
Fausto Leali, Angeli Negri, c'est le choix de Paola Pigani qui publie Des orties et des hommes chez Liana Levy. Nous passons cette heure avec elle et avec Violaine Schwartz qui publie Papier chez POL. C'est voilà deux femmes qui chantent hein, le désir d'appartenance à travers leurs livres. Paola Pigani, ce choix musical n'est pas étranger au pédigré de votre héroïne Pia, dont les parents sont italiens. C'est pour ça que vous vouliez nous faire entendre un peu d'italien dans cette émission.
Oui, en fait, le refrain de cette chanson, je l'ai entendu pendant des années et des années, sans connaître la chanson originale, sans connaître la voix de Fausto. Et je l'ai découvert après la mort de mon père, en fait. Et ça a été une révélation.
Parce
et
que après, c'est lui qui la chantait.
Il la chantait toujours dans ses vieilles voitures pourries. Et voilà, ça sentait la paille, ça sentait le gasoil. Et c'était un refrain lancinant. Et donc, après sa mort, j'ai compris le sens de ses paroles. En fait.
Parce que vous ne pouviez pas lui demander ce que ça voulait dire.
Non, voilà. Ça faisait partie de lui. Voilà, il chantait voilà dans les espaces comme ça entre les champs, la ferme. Le Crédit Agricole, la supérette de la petite ville.
Parce qu'il fallait pas parler italien. C'était il fallait parler français.
Oui,
il fallait,
voilà. Ouais. Mais évidemment, lui, il continuait à parler italien, mais nous, on ne.
Il vous l'apprenait pas, quoi.
Voilà. Et donc, voilà, c'était peut-être une façon aussi de semer en nous, voilà, ces quelques mots d'italien. Mais en fait, bon, voilà, je suis un pauvre nègre. Voilà, c'était. Ça me fait penser aussi à la chanson de Nino Ferrer, je voudrais être noir.
Voilà, exactement. Alors, je le disais, on vous connaît comme poétesse, comme l'auteur de ce premier roman publié en 2013, dont le titre était « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures » et qui parlait des tziganes persécutés par la commandante Tours pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous publiez à nouveau chez Liana Levy « Des orties et des hommes », c'est votre troisième roman. Une enfance, c'est le récit d'une enfance en Charente, une enfance dans les années 70, dans le monde paysan, donc au milieu des bois, au milieu des champs, un monde paysan extrêmement tactile que vous nous faites entendre, toucher, le cochon qu'on égorge, les cailloux qu'on jette dans la rivière, les conseils de la grand-mère pour arracher les orties qui donnent leur nom au titre sans se brûler et les cuisiner, ces orties. C'est le récit d'une enfance qui est à la fois difficile mais qui est aussi enchantée, où l'on sent vraiment la vie s'écouler au rythme des l'âge des bêtes, du prix aussi des denrées, de la sécheresse qui frappe et qui détruit aussi ce monde agricole, de la politique aussi qui s'en mêle. Il est question du Larzac en lutte, de l'engagement et de l'autre côté, d'un monde plus sec, le monde de la discipline, du pensionnat religieux, où les visages sont gris. D'ailleurs, il est question de fugue, puisque la grande sœur, elle, va fuguer. On est déjà dans la fuite, Violaine Schwarz, dans l'exil. Et ce qui est important, ce qui m'a marqué, moi, dans ce livre, c'est que on sent que, on parlait de nostalgie tout à l'heure, mais il n'y a pas de douleur, il y a des choses qui se passent, il y a évidemment des chagrins, une certaine mélancolie, mais vraiment la vie et le sentiment que ce qui compte, et c'est peut-être ça aussi une culture, ce qui compte c'est ce qu'on transmet, même et encore mieux d'ailleurs si cette culture est métissée, hybridée. Et j'ai cité et je vais reciter Paola Pigani, cette phrase que j'aime beaucoup: ce pays est le mien pour quelque temps encore, même s'il n'est que de pierre, d'écorce et de terre, je n'ai qu'à le regarder par la peau et garder l'horizon pour voyage, les frontières tendres, le sorgho et le blé et le maïs trembleront encore sous mes yeux quand j'habiterai une ville. C'est vraiment le désir de transmission qui a guidé ce livre et de transmettre aussi les sensations.
Alors, pas forcément un désir de transmission, mais de revenir sur un territoire perdu et de revenir sur ce sentiment d'immensité qu'on peut vivre enfant dans un tel environnement et qui se cogne un jour au sentiment d'enfermement, voilà, avec le pensionnat, les sœurs grises et voilà cette invasion sensorielle aussi qui constitue un véritable fondement, une nourriture vraiment terrestre.
Voilà.
Qui fait qu'on tient, enfin, voilà, certains...
Qu'on tient en tant quoi? En tant qu'être humain?
En tant qu'être humain, dans... Alors, moi, j'ai une enfance pas du tout balisée par des murs de livres, mais un personnage, je l'appelle personnage parce que je n'ai pas d'autres mots dans le livre de Violaine Schwarz, dit que c'est les livres qui l'ont tenu...
C'est le personnage
c'est très fort.
De l'Azérie, c'est
oui,
ça
oui, c'est l'Arménie.
Qui l'ont tenu droite, c'est les livres qui l'ont sauvé. Moi, c'est venu dans un second temps, en tout cas, mais c'est en France terrestre qui m'a tenue droite.
C'est drôle parce que la comparaison que vous faites entre ces sensations chez vous et puis les livres pour le personnage, on dit un personnage d'Azir. D'ailleurs, on dit personnage, Violaine Schwarz?
Moi, je Comment dirais pas, je sais pas, des voix peut-être.
Des voix, voilà, des voix.
Des voix.
Et on a l'impression que c'est effectivement mis sur le même plan chez vous. C'est-à-dire que tous ces gestes que vous racontez, préparer les vaches pour la traite, épigouiller le maïs, j'ai appris le mot, le sourire au bossu qui est au bord du chemin, on a l'impression d'un certain nombre de leçons de choses, comme s'il fallait aussi Oui, les éterniser, comme finalement un livre éternise aussi un certain nombre de paroles, de voix, hein, comme vous l'avez fait, Violaine Schwartz. On a l'impression que ça, c'est écrire pour ne pas qu'on les oublie. C'est le son de choses. Et vous citiez Guillavic, c'est exactement ça, sa poésie.
Voilà, j'ai cette phrase toujours de René Guicadou en tête, toujours, j'écris pour dépasser la crue noire du temps. Mmh. Enfin, écrire, c'est aussi faire face à toutes les pertes.
Et c'est le miracle aussi, peut-être justement, de conjurer cette disparition.
Voilà, et de faire ressurgir des présences.
Une petite précision pour les auditrices et les auditeurs. On a parlé de votre vie, on a parlé de Pia, elle s'appelle Pia, hein, votre héroïne, elle parle à la première personne. Vous diriez que c'est un récit autobiographique ou ça dépasse ça, en fait?
J'ai prêté beaucoup de souvenirs personnels, de souvenirs émotionnels aussi à ce personnage. Mais voilà, pour l'unité du roman, certaines scènes, certains événements ont été évidemment recréé, donc il y a le travail de réécriture qui dépasse le récit autobiographique. Puis c'est vrai que moi je suis bien aussi dans la littérature, j'ai besoin de faire pénétrer un certain imaginaire, mais c'est vrai qu'on peut retrouver des choses très personnelles.
On va vous entendre lire, Paola Pigani, un extrait de « Des orties et des hommes » et on va sentir la grande présence de la nature.
À Chavagnac, j'ai comme une autre vie, où des femmes en noir nous regardent passer avec les chèvres. Nonna et moi, on n'est pas des bergères, on est des cheminières. On n'a pas de troupeau, pas de chiens, pas de collines à nous, que les fossés et les palisses. Nonna m'apprend pour les orties. J'ai juste à la regarder cueillir, comme si c'était des fleurs, à main nue sous les feuilles. Il suffit de les prendre par la douceur, et la peau ne sent rien. Je mets mes bras en cercle pour tenir le haut du sac. Nonna le remplit sans rien dire. C'est léger, même plein, le sac d'ortie et de silence. Je porte tout, sans mal, le mystère des vilaines herbes qui ne le sont plus. On suit le bon vouloir des chèvres, leur liberté de bête, si différente des énormes vaches dociles. Nonna rouspète un peu, mais elle pourrait les suivre jusqu'à Limoges ou Angoulême si l'envie les prenait. Personne n'a assez de folie pour ça. Je les aime parce qu'elles sont sages, comme des fleurs vivantes. La vie, c'est tranquille ici, entre la couleur des chemins et les brouillons du ciel au-dessus de nos têtes. Pas besoin d'imaginer autre chose. On revient par la maison de l'aboyeur, la plus propre du village. Il y a toujours le même nombre de chrysanthèmes à chaque fenêtre. L'été, des géraniums. La femme est derrière le carreau. Elle n'est pas agricultrice, elle a toujours des chaussures propres et une figure toute blanche. C'est la femme rideau, la seule ici. Je hâte le pas devant leur voiture qui brille. Entre ces murs, il y a un garçon de mon âge, Christophe. Un peu bizarre, on dirait un peu tiot. Je le vois parfois qu'il joue aux billes tout seul sur le paillasson. Fils unique, c'est la honte. Quand j'ai passé le mur de leur maison, je ralentis, puis je respire tout à fait. Nonna parle aux vieilles plantées au coin des granges. Dans son tablier, le livre de prière dépasse. J'ai peur qu'on la voie, elle et son secret des chemins. Elle ne fait pas que travailler, elle lit les mots du dimanche.
Merci pour cette belle lecture, Paola Pigani, des orties et des hommes, c'est chez Liana Levy. Je le disais tout à l'heure, enfin je rappelais vos précédents livres dans l'introduction de cette émission où il est beaucoup question d'exil, puisque vous vous intéressiez aux manouches, aux tziganes, à ceux qui sont venus d'ailleurs, c'était même le titre de votre deuxième livre. Ce que je trouve très intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a de l'exil, mais il y a de l'exil dans l'exil. Il y a l'exil des parents de Pia, qui sont venus d'Italie, qui se retrouvent dans un univers qui est au départ roi, cette paysannerie des années presque éternelles. Hein, et cette paysannerie va se trouver exilée finalement dans le siècle. La modernité arrivant, ce monde va être chassé hein, au fond. Et puis il y a l'exil dans l'exil parce que elle sent une part d'étrangeté dans sa famille, notamment à cause de cette langue qu'on cache hein, pour ne pas affoler les souvenirs, c'est une expression qu'elle utilise. Mais elle fait aussi elle-même l'expérience d'une autre étrangeté, ceux qui sont plus étrangers qu'elle. Je pense à l'épisode des manouches, que j'aimerais bien que vous nous lisiez aussi jeudi à Valma. Les manouches sont dans notre classe.
Jeudi à Valma, les manouches sont dans notre classe. Elle sait tout et m'affirme qu'ils ne sont pas là pour longtemps. T'as pas besoin d'avoir peur. Je n'ai pas peur. Je la suis même jusqu'au terrain où sont les caravanes. Du linge clapote dans une lessiveuse. Je vois le feu dessous et les bébés accrochés aux robes des femmes. Elles portent des chaussures à la mode et disent bonjour comme si de rien n'était. On fait semblant de chercher des cagouilles dans le fossé pour regarder encore un peu. Un transistor braille dans une caravane. On reconnaît la voix de Joe Dassin. Il n'y a pas de cheval. Balma fait la roue dans l'herbe glacée pour attirer leur attention. Les femmes s'en fichent. Les filles de l'école ne sont pas là. On contourne le campement minuscule pour couper à travers les arbres, jusqu'au temple. C'est le plus loin où on ose aller.
Donc très très beau passage. Puis il y a cette question aussi, pourquoi que se pose Pia, que se pose la narratrice, pourquoi ils reviennent toujours au village, les manouches, pourquoi ils disparaissent pour réapparaître? Est-ce que vous avez une réponse à la question maintenant que vous avez écrit ce livre?
Alors à l'époque, enfin dans les années 70, il y avait aussi, ils étaient dans le balancier aussi des saisons, ouais. des travaux agricoles. Voilà, ils se rapprochaient des terres agricoles pour travailler dans les exploitations, dans les vignobles.
Donc c'est ça, c'est les saisons. L'explication, c'est les saisons.
Les saisons, c'était voilà, ils étaient encore très nomades.
Mmh. Alors, cette conscience d'être étranger, cet exil, il se traduit aussi dans votre livre par la langue. Il y a la langue italienne des parents hein, qui se refusent à la parler, je le disais toujours avec cette expression, pour ne pas affoler les souvenirs, mais qui leur échappe hein, parfois dans la voiture, comme on le disait tout à l'heure. Et puis il y a la langue de l'ouvrier manouche, il y a le portugais aussi qu'on entend. Quelle importance a pour vous cette façon de faire entendre plusieurs langues, plusieurs parler dans votre prose, ce qui contribue d'ailleurs à donner au texte sa grande poésie.
La mixité des langages, des langues, des dialectes, des patois font la richesse de la langue et de la littérature depuis la nuit des temps. Et je crois que d'avoir grandi aussi dans ce milieu où me parvenaient toutes ces formes de parler différents, ça a contribué au désir de créer aussi une autre langue en fait. M'approprier une autre langue.
Ce que je trouve beau aussi, c'est Gélène Schwartz. Ouais. J'ai pas fini de le lire, je suis en train de le lire, mais c'est aussi la langue de l'enfance, avec des raccourcis très poétiques, des accélérés de pensée. Je trouve ça. Enfin, c'est surtout ça moi, que j'ai lu.
Oui, l'enfance, c'est le vrai territoire, au fond. Parce qu'on parle de la Charente, mais le vrai territoire, c'est l'enfance, c'est ça.
Dont
on est exilé, forcément. Est-ce que le fait d'écrire pour vous, c'est aussi, pas seulement dans ce livre, mais de retrouver aussi ce territoire voilà, perdu qui est l'enfance, parce que malheureusement, enfin je sais pas, ou heureusement peut-être, je sais rien, on grandit. Est-ce que c'est une manière pour vous finalement utiliser l'écriture comme véhicule de voilà, des retrouvailles avec un temps révolu, où peut-être on avait ce rapport au langage différent?
Oui, tout à fait. C'est la poésie aussi qui me permet ça, avoir le sentiment d'être toujours née de la dernière pluie.
C'est-à-dire, expliquez-nous. La poésie donnerait ça, c'est intéressant. Ouais.
Un regard toujours réinventé sur des toutes petites choses dans l'environnement proche comme dans l'environnement lointain. Voilà, ça me permet de continuer à regarder et à vivre ce que je n'ai pas fini de regarder, ce que je n'ai pas fini de vivre.
Là, vous parlez de votre activité de poétesse, mais au fond, la poésie, on l'a aussi dans ce roman-là. C'est quoi la poésie, en fait? Comment vous la définiriez?
C'est vraiment une langue à soi qui permet d'aller au-delà des images toutes faites, des alliances attendues, des registres, de la syntaxe aussi. C'est la grande liberté et en même temps l'énergie qui est antérieure à tout projet d'écriture, à tout acte d'écrire, pour moi.
Et qu'est-ce que vous préférez? Prose des Ortiers des Hommes ou
Je ne préfère pas, j'ai besoin d'explorer l'écriture de part et d'autre. Pour moi, ça va toujours dans la même direction. C'est un élan créateur de toute façon.
Vous êtes sensible à cette dimension poétique de l'écriture. Quand on lit papier, Violaine Schwartz, on est aussi très surpris par ces alliances de mots que font parfois les migrants dont vous recueillez la parole, des alliances qui créent une autre réalité, parfois même du burlesque dans le tragique. C'est important, cette dimension poétique. Vous vouliez travailler dans cette direction?
Oui, comme je vous l'ai dit, j'ai retranscrit les mots que j'avais entendus. Après, c'est des gens, c'est une langue assez simple parce que c'est des gens. J'ai pris des témoignages où les gens parlaient le français, mais c'est une langue
C'est une langue, c'est-à-dire
C'est des gens qui parlent le français, mais c'est pas leur langue maternelle, donc c'est une langue apprise, voilà. Et elle est simple, mais j'ai voulu qu'elle soit belle quand même. Et c'est vrai que par exemple, il y a ce Kosovar qui, il y a des expressions qui reviennent, c'est des choses. Par exemple, pour lui, tout ce qui est compliqué, difficile, il dit c'est très très chiant. Et en fait, ça revient toujours. Ou il y en a un autre, il disait toujours ce jour-là, c'est pour lui, c'est pour accrocher dans le temps ce jour-là. Enfin bon, et j'étais comme ça sensible aux maladresses, enfin, que je trouve poétique, en fait, on allumait le froid dans le camion, et on était dans le froid pendant 8 heures, il est resté dans le froid. C'est assez évocateur.
C'est-à-dire que ces accidents, finalement, qui sont dus à une non-perfection de la maîtrise de la langue, créent, au fond, une richesse.
Enfin, c'est de la poésie, en tout cas, créent des images très fortes.
Vous avez appris l'italien depuis Paola Pigani?
En cours du soir, oui, mais je parle très mal. Et quand je vais en Italie, quand je parle en italien, on me répond en anglais et j'ai envie d'étrangler les Italiens.
Et vous n'avez pas essayé d'écrire justement de la poésie en italien, de profiter presque de cette non-maîtrise pour qu'il y ait des accidents qui produisent de la poésie?
Ça peut être intéressant, je vais y penser.
C'est une piste. On continue avec vous, Violaine Schwartz, vous publiez Papier chez POL. On écoute votre choix musical. Vous avez choisi Clandestino de Manu Chao.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal.
Clandestino de Manu Chao, c'est le choix musical de Violaine Schwartz qui publie Papier chez Poel. Elle est dans cette émission avec Paola Pigani qui publie Des orties et des hommes chez Liana Levy. Violaine Schwartz, vous avez pensé à ce titre en écrivant Papier?
Non, pas en écrivant Papier, mais... Après coup, oui, forcément, ça a des résonances.
Oui, parce que quand même, quand on... Bon, dans la chanson de Manu Chao, on appelle le protagoniste... Alors, il n'a pas de nom, on l'appelle justement Clandestino, le clandestin. Et ça m'a rappelé la façon dont, pour mettre en lumière la violence de l'anonymat auquel sont soumis vos, je vais pas dire vos personnages, mais les gens dont vous recueillez leur récit, vous mettez des numéros. C'est récit de vie numéro 76, 58, 93. Il y a des, voilà, je vais pas tous les citer. Il y a une dizaine de numéros qui sont des numéros de dossiers, en fait. C'est comme ça qu'ils sont enregistrés, ces récits?
Non, alors ça, évidemment, c'est la partie un peu inventée. Tout le reste est, je l'ai entendu, sauf ces numéros que j'ai fait très très long pour montrer qu'en effet
vous me rassurez dans le chaos que vous racontez, chaos poétique d'ailleurs, mais vous me rassurez.
Non, mais c'est vrai que c'était pour montrer que ces voix-là, c'est une parmi d'autres, et voilà, moi j'ai rencontré une quinzaine de personnes, et c'est des plongées comme ça dans des vies particulières, mais voilà.
Vous le disiez pendant qu'on écoutait Manu Chao, Paola Pigani, que vous avez été très touchée par notamment le premier récit du livre de Violaine Schwartz.
Tous en général, mais c'est vrai que le récit de cette jeune femme arménienne qui a perdu toute trace de ses origines, en fait toute trace d'état civil, voilà, et qui dit à un moment j'ai perdu la clé pour savoir d'où je viens, en quelques mots, toute la violence de son destin est restituée. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre papier, c'est cette mise en page très sobre, comme en vers libre, où on sent que le liant, en fait, est constitué des silences. Et moi, en tant que lectrice, j'entends aussi les silences dans la restitution de ces témoignages vraiment très poignants.
J'ai perdu la clé dont, pour savoir d'où je viens. Ce sont des phrases aussi qui ont été prononcées.
Ah mais tout ce que j'ai, tous ces récits, c'est ce que j'ai entendu. J'ai rien rajouté. Justement, le travail que j'ai essayé de faire, et c'est un travail finalement assez délicat, c'est de réécouter ces enregistrements que j'avais et d'être très à l'écoute. Donc déjà, rien que pour retranscrire, faut être très très disponible, pas laisser passer justement la moindre chose. Après, j'ai pas fait un travail de sociologue. J'aurais pu aussi mettre des comme moi je parle là, il y a des mots pas finis, il y a des phrases qui voilà. Par contre, c'est quand même un travail littéraire, mais j'ai essayé de conserver les digressions. Comment on arrive à dire quelque chose en passant par un détour imprévu ou
les silences dont parlait
Pigani, ou les répétitions, ou en effet ces mots qu'ils ont pour dire différentes choses, c'est toujours la même façon de le dire. Non, j'ai rien inventé. En effet, cette femme, elle est à 13 ans, elle est rentrée de l'école et elle a été jetée dans une cave par une voisine qui lui a dit « t'as plus de parents et t'as plus de maison, ils ont brûlé ta maison ». Et elle n'a pas de trace d'elle, aucune trace. Donc elle, en effet, elle a engagé une avocate qui ne trouve rien. Et donc elle finit par se demander qui elle est, puisqu'il n'y a pas de trace nulle part.
Et vous le disiez tout à l'heure, hein, ce titre s'appelle « Papier ». On les appelle « sans papier », alors qu'ils sont dans une montagne de papier, mais souvent il manque celui du début, le premier, le papier originel, qui atteste que vous êtes un être humain né dans tel endroit. Et je redis un mot là de votre choix musical, Clandestino de Manu Chao, puisqu'il y a ces paroles, hein, Medicine el clandestino, on me dit le clandestin, por no llevar papel, car je n'ai pas de papier. Donc ce mot papier, voilà, qui scintille d'une lumière noire et qui conditionne non seulement le destin de tous ces gens, hein, à qui vous rendez la parole dans votre beau livre, Violaine Schwartz. Je disais, hein, 200 pages, vraiment qu'on lit d'une traite, comme une épopée d'aujourd'hui, avec de véritables, héros, malheureusement, je vais même pas dire banal, parce que ce n'est pas banal. C'est le contraire du banal, qui traverse des mers, des continents, qui doivent combattre des monstres soit humains, hein, qui les frappent, qui les torturent, qui les raquettent, soit des monstres sans visage, au fond, des monstres kafkaïens, administratifs, et dont la seule toison d'or, finalement, c'est survivre, mais avoir ce précieux papier qui donne donc le titre de ce récit. Vous avez été frappé par cette dimension. Je veux pas faire de littérature, hein, mais au contraire, c'est pour rendre hommage à cette dimension épique, quoi, réellement épique de ces destins, quand vous les avez écoutés. Vous étiez conscient de ça, de ce que ça allait donner comme livre, et que ça allait pouvoir se lire comme des récits véritablement héroïques, malheureusement héroïques d'ailleurs.
Je sais pas quoi répondre. Oui, j'étais consciente que j'entendais des histoires quand je suis sortie de l'entretien avec l'Éthiopien, qui... C'était un entretien qui a duré 2 heures et on est complètement sonné en sortant de là et on se dit mais comment faut que j'arrive à rendre ça le plus précisément possible de ce que j'ai senti de voilà. Après c'est j'ai fait un travail, j'ai essayé de rien rajouter en fait. Je voulais pas tirer vers le pathos, je voulais pas rajouter un mot parce qu'avec des mais, des bons, des on peut tirer vers plus d'émotion. Je trouve que l'émotion elle était dans les mots qu'ils utilisaient. Je voulais surtout pas en rajouter. Par exemple, j'aurais pas voulu écrire de la fiction parce que j'ai pas envie de me servir de ces histoires pour voilà. Je voulais juste je pense à Francis Ponge aussi, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, le galet, l'ouvrier, la crevette, enfin voilà. Et donc voilà.
Je me suis posé une question qui va peut-être vous paraître absurde, mais elle est sincère. Est-ce que vous êtes posé la question, parce que je le redis, hein, donc papier, c'est une juxtaposition, un montage de paroles que vous avez recueillies, donc en interrogeant un certain nombre de personnes à Besançon, hein, voilà, dans des
Besançon
centres.
Mmh.
Où est-ce que se sont passées ces interviews dans des centres d'accueil, dans des...
Non, au théâtre en fait. Ouais. Au théâtre, c'était organisé par le CDDLE, Collectif de défense des droits et libertés des étrangers. Et c'était Pierre Couchou qui travaille là et qui s'occupe de, voilà, de démêler tous ces problèmes de dossier qui m'a présenté.
Et pourquoi au théâtre alors?
Parce qu'au début, ça devait être des pièces de théâtre. C'est de la commande, c'était d'écrire des pièces de théâtre que j'ai fait.
Ouais. Pour faire entendre justement cette réalité-là qu'on
connaît pas. Voilà, je devais écrire 4 piécettes que j'ai montées avec les étudiants. Mais après, je me suis retrouvée avec ces voix dans mon ordinateur que j'avais enregistrées. Je me suis dit, c'est trop réducteur ces pièces. C'était bien, j'étais contente. Mais
elles ont été jouées
à Besançon. Par des jeunes acteurs, ouais. Et c'était bien. Ça s'appelait Je suis d'ailleurs et d'ici.
Mais pas des acteurs qui étaient les personnages que vous avez, voilà, des acteurs.
Des acteurs, des élèves acteurs.
Voilà, des élèves acteurs.
Ouais. Et c'était un beau projet. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, je me suis retrouvée, comme je vous dis, j'étais pas satisfaite. Et puis je trouvais que j'ai eu envie de faire ce livre, alors qu'il est différent. J'ai pas publié le théâtre que j'avais écrit, mais j'ai remodelé ce que j'avais écrit en théâtre, en dialogue, en récit. Je me suis dit, je vais faire une succession de récits, comme on leur demande pour l'OFPRA de rendre des récits. Ils doivent rédiger des récits. Donc moi, j'ai fait des récits à ma façon. Et puis, entrecroisés d'exercices d'école ou de calligrammes assez simples, mais que je trouve qui donnent un peu de hauteur. Et
notamment sur les oies sauvages, voilà, où il y a cet unique mot qui est répété, vol. Et pendant ce temps-là, les oies sauvages vol, et ça dessine ce V. Ça termine d'ailleurs par un V. Non, la question que je me posais, j'ai pas terminé ma phrase, c'est est-ce que ça n'a pas été dur de signer le livre, au fond, de mettre son nom sur un livre, sur ces récits que vous avez recueillis?
Oui, c'est une bonne question, oui. Après, il y a quand même un travail d'écriture.
Oui, non, mais je ne dis pas que je n'ai pas travaillé, mais...
Non, mais c'est une bonne question, parce que je n'ai rien inventé. Enfin, en tout cas, je n'ai pas inventé de péripéties. Après, c'est sûr que les gens, même si c'est leur mot, et que leur mot ne parle pas tel que c'est écrit, parce que c'est pas dans cet ordre-là, et c'est pas... Mais...
Oui, tout a été quand même remonté.
Comme un montage au cinéma. Et après, c'est vrai aussi que l'idée de faire des récits entrecoupés d'école ou de l'hospitalité. Mais oui, c'est pas comme un roman, c'est clair. Enfin, c'est pas.
Je voudrais qu'on vous entende lire Violaine Schwartz. Justement, le passage qui plaît tant à Paola Pigani, qui me plaît beaucoup aussi. Le récit de cette femme, donc une Azérie venue d'Arménie qui cherche son identité.
Je vais bientôt passer le diplôme. Si je valide tous les modules, j'aurai enfin un diplôme à mon nom. Petit à petit, la vie reprend ses droits. Les enfants viennent d'obtenir la nationalité française. Moi, j'ai une carte de résidence pour 10 ans. Je suis passée du titre « étranger malade » à celui de « vie privée familiale ». Elle est valable jusqu'en 2020. J'ai encore 3 ans devant moi. Dessus, il y a marqué « pays indéterminé ». « Nationalité indéterminée ». Dans les magasins, j'évite de payer par chèque, parce qu'il faut présenter une carte d'identité. Et quand les gens voient « nationalité indéterminée », ils me regardent bizarrement. C'est quoi « indéterminée » ? C'est moi. L'avocate ne me trouve nulle part. Elle m'a cherché partout en Arménie. Il n'y a aucune trace de moi. Nulle part. Du coup, est-ce que je suis vraiment née là-bas ? Je me le demande. Est-ce que mes parents sont mes vrais parents ? Je me le demande. Ils avaient du mal à avoir un enfant. Peut-être qu'ils m'ont adopté sans me le dire. En Arménie, on attend la majorité de l'enfant pour lui dire ce genre de vérité. Si ça se trouve, je suis une Arménienne. Mais alors qui sont mes vrais parents? Il y a toujours des pourquoi dans ma tête. Si ça se trouve, je n'existe pas. Je me le demande. Il n'y a aucune preuve de moi. Nulle part.
Violaine Schwartz, papier chez POL. Il n'y a aucune preuve de moi. Nulle part. On parlait d'épopée tout à l'heure. C'est vrai que je me souvenais du passage où Ulysse dit au Cyclope « Mon nom est personne, je suis personne ». Là, on est au sens le plus strict du mot, son nom est personne. Quoi. Il n'y a pas de trace du tout d'elle. Donc il y avait cette ironie épique. Est-ce qu'il y a dans ce choc entre deux langues, la langue du récit, vous venez de nous la faire entendre, et la langue administrative dont vous donnez le glossaire au début du livre, les ratata, refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile, PAF, police aux frontières, ZAPI, zone d'attente pour passagers en instance, qui sont des vrais acronymes. Est-ce qu'il y avait la volonté de retisser tout à l'heure, de relier, mais de réhumaniser aussi ces destins en faisant entendre précisément leur langue?
Oui, bien sûr, cette rentrée, parce que bon, on parle de migrants. D'ailleurs, je déteste ce mot-là, mais on parle d'un voilà. C'est juste rentrer dans une histoire particulière et une autre histoire particulière et de leur donner une place. Juste écouter, faire attention, considérer. Ça me fait penser aussi au très beau livre de Marielle Massé qui s'appelle Sidérer, considérer, c'est-à-dire arrêter d'être juste sidéré par ces tentes qui sont au bord du canal, mais considérer, faire attention.
Il y a une chose qui m'a frappée aussi dans ce livre, c'est que, bien sûr, il y a ces récits épiques, ces récits tragiques, comme ces nouveaux Ulysse qui quittent leur pays mais qui n'y reviendront pas. Hein. Plutôt aîné, d'ailleurs, ce serait plutôt l'Énéide, en fait, le paradigme. Fonder se fonder une nouvelle vie quand notre propre ville natale a sombré dans les flammes, dans la guerre, cette idée de deuxième chance aussi, qui fonde aussi ce qu'est d'ailleurs l'Europe. Il y a aussi parfois, curieusement, des moments presque comiques, presque burlesques que vous nous faites entendre aussi, Vélène Schwartz. Un jour, j'ai réussi à passer. C'était un camion de kiwis. J'avais déplacé les cartons de fruits pour me cacher derrière. 38 heures, je suis resté dans ce camion fermé. 38 heures. Toutes les demi-heures, ils allumaient le froid. On était deux dans les kiwis, mais l'autre, il est parti en Finlande. Le camion était garé sur un bateau. Il y a comme ça des... Voilà, et Paola Vigani sourit.
Ouais, qu'est-ce qu'il vous... Je souris, c'est extraordinaire cette image. Voilà, le froid qu'on allume, être dans un camion, sur un bateau, enfin voilà, c'est espèce de réalité qui se superpose comme ça.
On était deux dans les kiwis.
En absurdité.
Mais l'autre, il est parti en Finlande. Voilà.
Voyage en absurdie.
Vous vous êtes dit ça en les écoutant, justement, même si vous avez monté un petit peu. Ça, je suppose que vous n'avez pas eu à travailler beaucoup, c'est ça, jailli comme ça.
Oui, c'est comme ça que c'est sorti. Oui, ouais. Bah oui.
Non, qu'on pense pas que c'est un montage, une reconstitution
dentaire. Non. Mais c'est vrai aussi que, par exemple, il y a aussi le témoignage d'une femme qui vient de Mauritanie, et on pourrait pas l'inventer une chose pareille. C'est-à-dire, elle a mis 6 ans à réussir à avoir un visa pour la France, et pour finir, elle est passée par l'Espagne. Et donc, elle est dublinée.
Espagne. Ah oui, dublinée.
Ça veut dire qu'elle doit demander son asile en Espagne. Et elle parle pas un mot d'espagnol. Elle est née en Afrique occidentale française. Elle a ses frères à Besançon, et qu'est-ce qu'elle irait faire en Espagne? Et donc elle s'est battue pour demander son asile en France, et après des mois et des mois d'attente et des tonnes de lettres et de courriers, elle a obtenu l'asile en France. Et puis elle est allée au CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile, pour trouver un logement. Et là, elle a été logée à Belfort, rue de Madrid, quoi. Donc ça, c'est quand même extraordinaire.
Voilà. Ce voyage en absurdité, oui, qui donne aussi toute sa force à votre récit. Je voudrais qu'on termine par Bertolt Brecht, en fait, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, vous parliez des exercices scolaires que vous insérez dans votre récit. Il y a eu une dictée. Et donc, vous avez repris le texte de Brecht, très très beau, dans Dialogue d'exilés. Sauf que vous rajoutez, évidemment, ce qu'on fait dans le dictée, c'est-à-dire la ponctuation. On vous écoute là-dessus.
Dictée. Le passeport est la partie la plus noble de l'homme, point. D'ailleurs, virgule, un passeport ne se fabrique pas aussi simplement qu'un homme, point. On peut faire un homme n'importe où, virgule, le plus étourdiment du monde et sans motif raisonnable, point, virgule, un passeport, virgule, jamais, point. Aussi reconnaît-on la valeur d'un bon passeport, virgule. Tandis que la valeur d'un homme, virgule, si grande qu'elle soit, virgule, n'est pas forcément reconnue. Point final. 2. Bertolt Brecht, comme ça se prononce.
C'est un texte qui est tiré de Dialogue d'exilés, je le disais, qui a été publié de manière posthume à Berlin en 1961 et qui avait été commencé en 1940, en fait, au cours de l'exil en Finlande de Brecht, et qu'il a achevé aux États-Unis. Deux exilés au buffet d'une gare, qui a été mis en scène, d'ailleurs, il y avait cette dimension théâtrale. Vous continuerez, Paola Pigani, aussi à explorer cette dimension de l'exil. À la fin de votre livre, votre personnage de Pia va en Italie, à Trieste, mais Trieste, c'est aussi un entre-deux, au fond.
C'est un entre-deux. Ouais. Entre la terre vraiment du Frioul, l'appel du lointain aussi.
L'écrivain, c'est un être de l'entre-deux, vous diriez ça? Ou le poète?
Oui. Sans hésitation.
Merci à toutes les deux. Je rappelle le titre de vos livres. Paola Pigani, Des orties et des hommes, c'est chez Liana Lévy, et Violaine Schwartz, Papier, c'est chez POL. Merci Violaine Schwartz.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci Paola Pigani. Le temps des écrivains. C'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pour réécouter à l'infini. Fini cette émission sur franceculture.fr avec Violaine Schwartz et Paola Pigani.